sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour, édition du 25 septembre. On a une grosse édition pour vous, on a toutes sortes de choses au menu, on a plein d'invités. Nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Claire Moussel et Thomas Vaillant. On parle d'un dictionnaire bilingue français langue des signes québécoise. Ça va sortir, c'est tout chaud, ça sort, on en parle. Locke Corey et Marco Cagliari seront ici pour nous parler de du jumelage, du mentorat. C'est aujourd'hui, 25 septembre, la journée québécoise du parrainage civique. On en parle avec eux. Nous aurons le plaisir de recevoir par téléphone Joël Arsenault, député du Parti québécois pour les îles de la Madeleine. Et on va parler des iniquités dans le système des primes ou des prestations d'invalidité au Québec, entre autres pour les personnes qui approchent 65 ans. Pour commencer, nous aurons Lynn Dubé, notre chroniqueuse d'informatique et de technologie. Et à la toute fin, on termine avec Élisane Pellerin. Évidemment, on fait le tour du monde pour la revue de presse. On vous revient tout de suite. Bonjour Lynn, comment ça va?
Ça va très bien.
Bien, merci.
C'est l'automne et il fait beau.
Ben oui, tout à fait. Encore, j'en reviens pas la météo. Après une semaine de beau temps, on en a une deuxième.
Hey, ben
c'est,
oui.
C'est la loi de la moyenne avec l'été un peu tristounet qu'on a eu. Bien voilà, on a un superbe automne devant nous. Nous allons parler aujourd'hui d'une application. Là. C'est tellement formidable. À toutes les personnes à qui j'en ai parlé durant le week-end, là, ils veulent s'inscrire, que ce soit comme bénévole ou comme usager, usagère. On va parler aujourd'hui de Be My Eye.
Oui, Be My Eye, c'est une application qui nous permet d'avoir une assistance, je dis qui nous permet.
Ben nous, nos auditeurs, toi et moi.
Nous, les personnes en perte de vision, du moins. Mais ce qui est fantastique, comme vous le disiez, c'est que nous, on va bénéficier de cette aide-là. Il y a plusieurs types d'aides hein, qui sont disponibles au niveau de l'écran de votre ordinateur, d'un document à lire, tout plein de choses. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'en plus, la communauté au complet peut s'impliquer.
Oui.
Parce que si vous n'êtes pas en perte de vision, ben, aller donner un coup de pouce comme bénévole.
Exact. Et je pense, c'est à proprement parler, c'est presque la plus grande organisation, je dirais, bénévole virtuelle.
Ben, pas loin. Je dirais pas ça.
Mais,
en fait,
oui.
Ce qui est là de fantastique, c'est qu'elle regroupe beaucoup, beaucoup de langues. Alors,
oui.
Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que je vais être servi dans ma langue? Oui, vous allez être servi en français si vous souhaitez d'être en français. Il y a plusieurs langues de disponibles. Ce qui n'est pas le cas pour une autre application qui s'appelle AIRA, A-I-R-A,
d'accord,
qui, à ce jour, fait à peu près la même chose, mais qui est un petit peu plus spécifique ou plus spécialisé.
D'accord.
Parce que les gens qu'ils ont sont formés pour aider au niveau, entre autres, d'un lecteur d'écran ou des choses comme ça.
Oui, ça, c'est
pas
plus
des
pointu.
Bénévoles, c'est ça. Mais c'est juste en anglais. Alors,
oh, d'accord. Bon. Ben, voilà. Mais on va prendre deux pas de recul, si vous voulez.
Oui,
bien, Lynn. De quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'on en parle comme si tout le monde était au courant.
Ben oui, si tout le monde
voilà.
connaissait ça.
Bien,
en fait,
de quoi il s'agit?
Premièrement, c'est une application mobile qui est disponible sur Android et iPhone. Je poursuis encore mon défi de vous présenter une application qui est sur les deux plateformes. Quand vous ouvrez l'application pour la première fois, on va vous demander de choisir si vous entrez à titre de personne qui a besoin d'aide ou à titre de bénévole. Et si vous progressez, on va vous demander de vous inscrire, donc de rentrer un courriel, un mot de passe. Vous aurez plusieurs façons de choisir. Et ensuite, c'est très simple, sur l'écran d'accueil, vous aurez un bouton pour demander de l'aide. Et si vous activez ce bouton-là, vous avez un 15 à 30 secondes. C'est ce qu'on vous donne comme attente. C'est quand même pas pire parce que si vous saviez combien de fois on peut attendre quand on appelle.
Oui, oui, des fois, on attend longtemps au coin de la rue. Voilà.
Oui, effectivement, vous faites le 1, faites le 2, vous ne ferez rien de ça. Vous allez être en attente 15 à 30 secondes, quelqu'un au bout de la ligne vous répond. Évidemment, c'est un bénévole, c'est quelqu'un comme monsieur, madame, tout le monde qui a le goût d'aider. Alors, prenez pas pour acquis qui connaît votre situation.
C'est pas un programmeur ou une programmeuse, quelqu'un
pas du
qui,
tout.
Qui
Alors,
est spécialiste.
Soyons sensibles, soyons patients, prenons le temps d'expliquer qu'est-ce qu'on a besoin, puis ça va se jouer avec la caméra de votre appareil.
On pointe notre caméra, enfin, il faut d'abord savoir que c'est à l'endos de l'écran, hein, d'habitude.
Oui, généralement, c'est la caméra qui est derrière votre écran parce qu'on a deux caméras sur nos appareils. Une qui est celle des selfies, mais on va prendre l'autre.
On pointe l'endos de notre téléphone, le recto, le verso plutôt, dis-je.
Ouais,
le verso, l'endos, ouais. Le verso du téléphone. On le pointe vers ce qui nous tracasse. Ça peut être une étiquette.
Où on a besoin d'être informé.
Exact.
Parce que ça devient les yeux de votre bénévole, la caméra.
Exact. Et là, il y a une interaction. On se parle au téléphone, en fait.
Puis il faut être conscient, là, quand on rejoint un bénévole comme ça, ben, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est peut-être en train de faire son épicerie, il est peut-être au magasin, il est peut-être chez lui, il est peut-être partout parce que les gens se rendent disponibles ou non.
Oui.
Pour pouvoir aider.
Mais si la personne s'est rendue disponible, c'est quand même qu'elle est dans une position pour être capable de regarder son téléphone et d'interpréter pour nous l'image qu'elle y voit. Et ça, cette personne-là, donc, va s'adresser à nous dans la langue de notre choix. Ça, c'est important.
Ça peut être quelqu'un qui n'est pas au Canada aussi,
Ça peut être en
français.
Exact. Et c'est important à ce moment-là de bien spécifier ce que l'on cherche à faire. Parce que ça se pourrait que l'on ne pointe pas notre téléphone tout à fait dans la bonne direction. Ça peut arriver aussi.
Puis on va vous aider parce que la personne est là. Ça, c'est quelque chose qu'elle doit avoir eu comme information. Elle va pouvoir vous aider à dire « monte un peu ton téléphone, tasse un peu à gauche ». Ça, c'est, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir les bonnes directives. Vous pouvez commencer votre question en votre interaction avec la personne en posant une question. Est-ce que je peux vous demander telle chose? Parce qu'ils ne sont pas autorisés de tout faire. Alors, pour ne pas être déçu, commencez en demandant est-ce que c'est possible de m'aider à faire tel truc?
Si vous demandez
de traverser la rue, là.
Oui, peut-être qu'il y a une responsabilité. Il faut comprendre.
Oui, c'est ça.
Si vous parlez à quelqu'un qui est de bonne foi. On suppose que nous aussi, on est de bonne foi de l'autre côté. Alors, on veut s'aider, mais on est juste des humains. Puis, si on est dans une situation de panique, peut-être que ça n'aidera pas la personne au bout du fil.
C'est ça. Puis, c'est pas à eux, peut-être, à faire ça. Peut-être c'est mieux, des fois,
d'appeler les premiers répondants. Voilà. OK. C'est ça. Exact.
Il y a une deuxième section dans l'application qui peut être vraiment intéressante aussi. C'est la section plus spécialisée. Là, vous allez retrouver plein de catégories. Je vais en nommer juste quelques-unes. Là. Maison et nettoyage, organisation pour non-voyants, santé personnelle, technique, technologie d'assistance. Et là, c'est pas des bénévoles qui vont vous répondre. Si vous activez sur un de ces choix-là, vous aurez des noms de compagnies. Donc, si je vais, entre autres, sur technique, vous allez avoir Google.
Oui.
Là, ça me dit actuellement qu'il est ouvert. Ça va me dire LinkedIn, il est ouvert. Microsoft, il est ouvert. Alors, si vous activez un de ces choix-là,
vous aurez quelqu'un de l'organisation au bout du fil, quelqu'un qui s'y connaît. Oui.
Oui. Là, la seule chose que je suis un peu embêtée, je ne peux pas vous répondre malheureusement, c'est quand on va tomber là. Est-ce qu'on va avoir un service en français? J'ose croire
ça se pourrait que ça se complique. Ça pourrait se compliquer. Mais quoi qu'il en soit, il est possible d'aller jusqu'à ce degré de spécialisation. Et ça peut être des choses aussi bêtes que dire est-ce que la chemise que j'ai dans ma main est-elle bel et bien à carreaux bleus?
Oui, puis deux paires de bas ou deux bas, on est en train de faire le lavage, on s'est acheté des bas qui se ressemblent. On sait qu'on en a des bleus.
Ah, mais ça,
des
c'est
verts.
Correct, les bas. Ça, c'est, moi, j'ai pas de problème avec les bas mélangés. Si les gens me disent que les bas sont pas pareils, je leur dis oui, ça, c'est parce que c'est un symbole de diversité et d'inclusion. C'est pas parce que le bas est gris qu'il n'a pas le droit d'être là.
Non, c'est parce que j'ai le cœur jeune et j'ai choisi de faire comme les jeunes.
Voilà, exact. Non, mais sans blague, ça permet de faire beaucoup de choses. Puis, c'est disponible à toute heure du jour.
Oui, tout à fait. En fait, les bénévoles sont disponibles à toute heure du jour et les services, comme on vient de parler, le spécialisé, eux, ça va vous indiquer si c'est ouvert ou pas.
D'accord. Est-ce que les gens, quand même, ont une formation? Parce que on veut pas tomber sur des gens qui abusent de la situation ou des mauvais plaisantins, là. Parce qu'on se sent un peu vulnérable quand même.
Oui, mais je vais être honnête, je ne peux pas répondre à cette question-là. La seule chose que je peux dire, c'est qu'ils ne sont pas formés pour des trucs de confidentialité. Alors, vous ne pourrez pas demander un numéro de carte de crédit parce qu'on vous a demandé votre numéro, il faut que vous le donniez, puis là, il n'y a personne avec vous. Ils ne pourront pas vous aider pour des trucs comme ça.
Ça, c'est bien. Ça peut éviter que des fraudeurs se glissent dans le... dans l'eau, exactement. Là, dire, là, je suis au guichet automatique, pouvez-vous m'aider à faire mon NIP? Là, c'est pas une bonne question.
Non, c'est ça. Mais en même temps, ce que j'ai le goût de vous dire, bon, on parle de Be My Eyes, mais bon, c'est une application qui est fantastique parce que vous pouvez trouver un bénévole en tout temps, mais il y a toujours, on y pense pas à ça, mais il y a toujours le moyen d'utiliser une application comme Skype ou WhatsApp ou si vous êtes sur iPhone, ça va être avec FaceTime, ça peut être Messenger. Vous pouvez appeler des contacts que vous connaissez, hein, des gens qui voient, puis vous pouvez leur demander de l'aide. Là, ça devient un petit peu plus facile d'avoir des trucs
confidentiels
ou personnalisés.
Oui,
tout à fait.
Exact. Mais de notre côté,
on n'y pense pas.
mais de notre côté, si on passe notre temps à interpeller le beau-frère, peut-être qu'on doit lui donner une petite chance. Et c'est un peu à ça que ça sert, Be My Eyes. Surtout qu'on peut.
Oui.
Et quand on parlait de on se parle, on se comprend que tout ça, ça se fait Internet. Alors, il n'y a pas de facturation. C'est totalement gratuit.
C'est totalement gratuit, en autant qu'on est soit sur du Wi-Fi ou qu'on a des données cellulaires sur notre appareil. Oui, il n'y a pas de souci. C'est pas une application qui coûte quelque chose. C'est pas une application qui a des frais cachés non plus. C'est totalement gratuit.
C'est fantastique. On se demande qui finance ça, mais c'est parce que je pense entre autres à servir de Be My Eyes si je suis en voyage, par exemple. Dans un endroit où je suis moins familier, puis j'essaie de lire, je ne sais pas, le tableau des départs dans une gare de train. Il faut que je sois capable d'avoir quelqu'un au bout du fil, mais il ne faut pas que ce soit non plus... Ça me coûte le voyage de train, essayer de parler au téléphone avec quelqu'un. Bien, ça, c'est super! Et ça fait... On voit les publicités ou ce que Be My Eye disent d'eux-mêmes, là. Il parle d'un million de soutiens.
Oui, puis moi, j'ai vu, là, quand on s'est inscrit, là, vous allez voir, là, il y a 6 millions de personnes qui se sont inscrites, quel que soit le côté, soit
d'accord.
pour de l'aide ou pour les bénévoles. Alors,
c'est universel, c'est bien. J'ai l'impression que ça a beaucoup grossi pendant la pandémie, mais ça, c'est mon impression.
Sûrement. Oui. Le seul bémol que j'ai le goût d'ajouter pour pas que personne ici reçoive des tomates, que ce soit vous ou moi, on n'est pas au contrôle de ça. Il y a 4 onglets dans notre application. Il y a « Obtenir de l'aide » qui est tout à fait en français. On a le deuxième qui est « Communauté », qui est « Community ». Malheureusement, actuellement, c'est toutes des situations, des exemples de trucs qui se sont faits, des petites vidéos, mais c'est en anglais.
D'accord.
Alors, comment les gens ont reçu
oui,
l'aide.
Oui. Mm-hmm.
Le troisième, c'est « Apprendre ». Il est en français, mais quand vous cliquez dessus, il se transforme en « Learn ».
Oui, voilà. On a déjà vécu ça avec d'autres applis, oui.
Et c'est triste parce que quand on parle d'aide, on s'entend pour savoir comment l'application fonctionne, ça devrait être dans toutes les langues qu'on a.
Ça commencerait de ce côté-là, voilà.
Et moi, j'ai écrit, puis je leur ai demandé, alors, à suivre.
Bravo. Ben merci beaucoup, Lynn. Ça va être tout pour tout de suite. On se reparle dans un mois de quelque chose d'autre qui va encore une fois nous aider.
Excellent! Merci, merci. Bonne journée.
Thank you.
Ah, les aléas de la radio en direct. Voilà, la semaine dernière, nous espérions avoir M. Joël Arsenault, chef parlementaire du Parti québécois et député des îles de la Madeleine en onde, mais malheureusement, ce jour-là, il était sur le traversier, puis la communication n'était pas suffisante. On avait convenu de se reparler aujourd'hui et nous attendons toujours l'appel de M. Arsenault. À que cela ne tienne, voici de quoi il s'agit. Et c'est, il me semble tout de même une question qu'il est important de débattre. Le Parti québécois demande au gouvernement de mettre fin à la discrimination envers les personnes invalides prestataires du régime des rentes du Québec. Et nous avons M. Arsenault en ligne. Ah, mais c'est formidable, il va pouvoir nous en parler lui-même. Bonjour, M. Arsenault.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ah, ça va très bien, merci, et vous-même?
On est content de vous avoir, on pensait que nos chemins ne s'étaient pas croisés ce matin. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, on parle aujourd'hui de l'appel que vous avez lancé au gouvernement, comme quoi il y a une iniquité qui envers les retraités invalides. De quoi s'agit-il?
Ouais, en fait, c'est pas nous qui affirmons qu'il y a iniquité, c'est véritablement le tribunal administratif du Québec qui a statué sur la cause de 5 personnes en situation d'invalidité qui se voient couper leur revenu de rente de rente du Québec, rente de retraite du Québec de l'ordre de 24% parce qu'elles ont obtenu une rente d'invalidité précédemment entre l'âge de 60 et 65 ans. C'est un peu le même régime qu'on applique aux personnes en situation d'invalidité que ceux qui décideraient volontairement
de ne pas contribuer.
Oui, de ne pas contribuer entre l'âge de 60 et 65 ans. Si on prend une retraite précoce, si on veut, mais on voit la rente de retraite diminuer après l'âge de 65 ans. Sauf que dans le cas des personnes qui sont en situation d'invalidité, elles reçoivent des prestations d'invalidité jusqu'à 65 ans, mais on fait comme si elles n'avaient pas voulu travailler.
Alors que ce n'est pas le cas. S'ils reçoivent en fait des prestations d'invalidité, c'est parce qu'elles sont incapables de travailler, de contribuer à la régie des rentes pour avoir la prestation de retraite. On comprend le non-sens et le gouvernement, lui, est allé en appel.
Ben exactement, c'est ce qu'on déplore parce que cette situation-là, elle dure, faut le dire, depuis une trentaine d'années. Et là, il y a une cause qui a été portée devant le tribunal administratif du Québec. Ces gens-là ont gagné leur cause, mais en même temps, la cause de tous ceux qu'ils représentent en quelque sorte. Là, on parle de 28 000 Québécoises et Québécois qui sont dans cette situation-là. Et le tribunal administratif du travail était très clair que cet article-là du régime porte atteinte au droit à l'égalité. Donc, c'est une discrimination envers les personnes qui ont des limitations fonctionnelles qui les empêchent de travailler. Et pourtant, le gouvernement a décidé de porter la cause en appel. Nous, on souhaiterait qu'il ne le fasse pas. On a une situation qui est difficile d'entrée de jeu pour les personnes qui sont invalides. On a une période d'inflation à l'heure actuelle, de crise du logement, et ainsi de suite, qui nécessiterait que le gouvernement fasse preuve de davantage de bienveillance à ce point de vue envers ces personnes-là.
Oui, parce qu'une question de bienveillance, mais encore plus... En première ligne, il n'y a pas juste ça, il y a une question de logique.
D'équité,
voilà. Oui, équité est le mot juste. Vous avez raison, M. Arsenault. Et c'est quelque chose tout de même, un sujet au sujet duquel vous avez interpellé le gouvernement libéral précédent.
Oui, ben c'est sûr que cette situation-là, il faut quand même mentionner que ça a été provoqué par des décisions difficiles. À la fin des années 90, au moment où on avait une période là d'austérité budgétaire, si on veut, là, et à une période où le régime des rentes du Québec était vu comme la solvabilité n'était pas assurée.
Était mise en cause, oui.
Exactement. Donc, ces décisions-là difficiles ont été prises. Et là, ben, on s'aperçoit aujourd'hui, d'une part, que la décision est aux yeux du tribunal est discriminatoire, mais aussi le ministre Girard lui-même a mentionné, pas plus tard que la semaine dernière, que la solvabilité du régime des rentes n'était pas en cause. Il y a des milliards de dollars qui sont en caisse et on ne craint pas pour les prestations à verser au cours des prochaines années. Et de toute façon, on parle de 28 000 personnes là, sur plus de 2 millions de prestataires. Alors évidemment, c'est pas ça qui va faire la différence. Alors, on comprend mal la décision du gouvernement de s'entêter à vouloir porter la cause en appel.
D'insister, enfin, je peux dire, c'est presque un peu une forme d'acharnement administratif, là. Oui, c'est utile de comprendre la logique qu'il y a derrière tout ça. Dans les dossiers que vous parrainez, parce que à l'intérieur du groupe parlementaire du Parti québécois, vous avez certaines responsabilités, je dirais, sociales, si on peut dire, qui vous incombent. Vous avez aussi interpellé le gouvernement récemment au sujet de l'itinérance.
Oui, absolument. Et ça, c'est fondamental. On n'est pas les seuls, évidemment. On voit que le phénomène de l'itinérance est exacerbé par la crise du logement. Et les chiffres maintenant sont évocateurs. Là, on parle de 44% davantage de personnes en situation d'itinérance qu'au dernier décompte. Et surtout, on voit que la situation s'aggrave un peu partout au Québec. L'itinérance maintenant n'est pas concentrée uniquement à Montréal, mais toutes les grandes villes du Québec et même les plus petites villes en ressentent le poids maintenant. Donc, c'est une crise qui est nationale, si on veut.
Oui, ce n'est plus que
se sont levés également. Aussi.
Tout à fait. Ce n'est plus que le problème du centre-ville de Montréal. C'est beaucoup plus large que ça. Tout à fait. Et pour y arriver, vous proposez de hausser de façon importante le budget annuel de financement pour les organismes communautaires et toutes sortes de mesures qui vont dans ce sens-là. Nous aurons l'occasion de nous en reparler, M. Arsenault. On veut vous revoir à l'antenne, là, en espérant que vous n'êtes pas toujours entre ciel et terre. Voilà.
On va se libérer pour parler de justice sociale aussi. Je pense que ça vaut
exactement,
la peine.
Exactement, tout à fait. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Je vous remercie.
Et proposer des solutions à long terme, structurantes. Merci beaucoup.
Merci.
Sans détour avec François Beauregard.
Rebonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre et c'est la journée québécoise du parrainage civique. Le parrainage civique, c'est presque l'essence même de l'entraide entre deux personnes. C'est très simple et en même temps, c'est très beau. Et nous avons le plaisir, pour en parler aujourd'hui avec nous, de recevoir Locke Corrie, qui est directeur général du regroupement québécois du parrainage civique. Bonjour, Locke.
Bonjour.
Et en même temps, Marco Cagliari, a-t-il besoin de présentation, musicien, chanteur, compositeur et porte-parole du groupe. Bonjour, Marco.
Bonjour à vous.
Et donc, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que le parrainage civique?
Le parrainage civique, c'est une très bonne question, François. C'est la création d'une amitié entre deux personnes, un bénévole et une personne qui vit avec une limitation. Cette limitation, ça peut être une déficience intellectuelle, une problématique en santé mentale ou un handicap physique. Et grâce à cette relation de jumelage, on crée une relation d'amitié. Et grâce à cette relation de jumelage, le bénévole en ressort grandi et le filleul reprend confiance en la société et en lui-même.
Parce que souvent, les situations d'handicap, que ce soit cognitif, moteur, sensoriel, vont créer l'isolement. Hein? C'est le lot des personnes qui vivent avec ces problématiques. Ce qui est le plus lourd, souvent, c'est l'incapacité de rentrer en communication ou le fait que la société ne soit pas tout à fait adaptée. Mmh. Et ça, c'est le premier but du parrainage, c'est de briser ça, alors.
C'est totalement ça. On les met dans des carcans souvent. Alors oui, il y a beaucoup de ressources, d'alternatives maintenant, de plus en plus. Mais donc le parrainage civique est né de la désinstitutionnalisation, même si c'est plus le cas maintenant. On les met toujours dans des carcans. Et le parrainage civique, ça sert à briser ces carcans-là. Et donc nous, notre slogan, c'est « La différence, c'est vous qui la faites ». Différence, c'est vous qui la faites, parce qu'il y a également le regard qui est pesant sur la différence. Donc nous, on les sensibilise grâce à ça. Et la différence, c'est vous qui la faites grâce à votre bénévolat et au don de temps que vous faites.
Ben, c'est formidable. Marco, pourquoi vous êtes engagé dans cette cause? Parce qu'il y en existe mille et une.
Il y en existe mille et une, en effet. En fait, Julie Vachon, une ancienne directrice d'un des parrainages civiques, venait souvent dans mes spectacles quand j'allais dans sa région, qui est dans le Richelieu. Et de là, ben, elle voyait tout l'entrain, toute l'espèce d'inclusion que je faisais avec tout le monde. pour moi, un public, c'est un public. Et j'aime ça quand tout le monde s'amuse égal. Alors, de là, elle venait souvent avec ses membres. Et à un moment donné, elle m'a lancé la perche, elle m'a demandé, je sais que ça tenterait pas de devenir un porte-parole pour nous. De là, j'ai rencontré Locke et on s'est mis la main à la pâte. Et depuis ce temps-là, on amène le bonheur et la musique et elle entraide.
Oui,
et
parce que votre musique est festive, c'est généralement.
Très festif. Hein? C'est très festif.
On tape du pied puis on a envie de taper des mains et ainsi de suite. Là. Alors, c'est de la musique qui est populaire dans le sens... dans le sens adéquat du mot.
Oui, hein,
populaire
en
dans
effet,
le sens que
en effet,
ça,
en vrai
ça, ça vient des gens. Hein, alors, ça fait du sens, dans le fond.
Oui.
Tout ça se tient debout. Alors, aujourd'hui, le 25 septembre, il va se passer toutes sortes de choses à travers du Québec. Là.
Mm-hmm. Ben oui, c'est ça. Il y a tout un tas d'événements. Et puis, on a déjà commencé, parce que Marco ne peut pas être partout, même s'il donne beaucoup, beaucoup de son temps. Mais depuis le 21 septembre, nous sommes sur la route. On fait la tournée des organismes. Mm-hmm. Donc, on fait 7 shows avec Marco en 10 jours. Donc là, aujourd'hui, on est à Drummondville, mais le 28, on est à Montréal, au Jumeler Espace Communautaire. Et le 30, notamment, on sera en Beauce, dans un verger qui s'appelle Les Rois de la Pomme. Ouais, ça fait 3 éditions que l'on fait là-bas. Et il y a toujours de plus en plus de monde pour promouvoir la cause. Et je voulais ajouter aussi quelque chose dans le fait qu'il soit porte-parole, mais c'est que c'est pas fin. Il n'est pas juste impliqué, genre, juste pour la journée québécoise du Marina Civique.
Ça va être toute l'année.
Mais il le dit pas parce qu'il est très modeste, mais il est également lui-même parrain. D'une personne, c'est Maxime, je crois.
Maxime,
ouais. Donc son filleul, au niveau des jumelages espaces communautaires, notamment, donc depuis un an, il est également parrain.
Donc, comme on dit, vous buvez le Kool-Aid, là, c'est bon, ça. c'est excellent, mais c'est bien, parce que c'est pas un truc de relations publiques ici, ça vient de votre cœur, et ça,
oui,
c'est
mon cœur. Mon ancienne conjointe aussi, elle avait marrainé. Puis à un moment donné, on cherchait pour faire un... Parce que en fait, ce qu'on essaie de prôner de plus en plus, c'est le parrainage et marrainage en famille.
Oui.
Pour donner un exemple à ses enfants. Parce que de toute façon, on fait des activités. On va au cinéma.
De toute
manière. On va voir un spectacle. On va faire des trucs. Donc, pourquoi pas inclure quelqu'un, un filleul avec nous. Donc, c'est ça qu'on essaie de prôner à travers tout ça aussi.
Le parrainage civique, il y en a un peu partout au Québec. Mais il n'y a pas, parce que vous êtes responsable du regroupement. Hein? Alors, ça signifie qu'il y a plusieurs organisations. C'est dans chaque communauté. Ça reflète un peu votre tournée de spectacle.
Oui, en effet.
Et dans ce sens-là, il n'y a pas... un organisme pan-québécois, c'est un peu partout, il y a des
c'est
organismes.
C'est un peu partout, exactement. Évidemment, on est une petite vingtaine, on a un petit mouvement, petite vingtaine, on représente à peu près 3200 personnes qui gravitent autour du parrainage civique, tout le monde est autonome au niveau des organismes, mais le plus simple pour essayer de voir l'organisme le plus proche de chez lui, vous pouvez aller sur notre site qui s'appelle tout simplement parrainagecivique.com.
D'accord.
Et ils vont pouvoir trouver l'organisme le plus proche, ou ils m'appellent directement, parce qu'on est tellement une grosse équipe qu'ils tomberont directement sur moi.
Ok, okay, bah c'est bien ça. Mais là, je vais vous poser la question sévère, mais nécessaire, parce que c'est quelque chose... Est-ce qu'il y a un contrôle de la qualité?
Ben oui.
Est-ce qu'il y a une formation, ainsi de suite? Si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui peut bénéficier d'avoir un parrain ou une marraine, je veux tout de même pas que cette personne soit qui est vulnérable ou fragilisée puisse faire un mauvais mariage, si je peux dire.
Alors, totalement. Évidemment que l'on contrôle les profils, et puis le bénévole qui vient chez nous, il vient avec ses envies, ses attentes.
Oui.
Et donc nous, avec ses envies et ses attentes, on va essayer de trouver le profil adéquat pour lui. Ça peut être complémentaire, similaire. On va voir tout ça. Mais ensuite, on le pitch pas directement avec quelqu'un comme ça. Ils sont, entre guillemets, formés,
d'accord,
encadrés tout
encadré
le long. Il y a un suivi régulier de ces jumelages-là, des appels, des rencontres en personne, tout le long du jumelage. Il y a des jumelages qui ont les plus vieux encore existants, qui ont 38 ans.
38 ans.
On les suit encore. Après, peut-être de manière moins régulière. De manière
moins régulière. C'est une vie, ça.
Ben ouais, c'est totalement ça. Le mouvement a un peu plus de 40 ans maintenant. Mais donc, ouais, les plus vieux jumelages ont 38 ans. Enfin, le dernier existant, parce que malheureusement, il y en a un qui est décédé là dans le lot des jumelages. Mais 38 ans. Mais donc, oui, il y a un suivi régulier. Mais ceux qui sont un peu plus anciens, on les suit moins régulièrement. Mais c'est un. C'est une amitié que l'on crée
entre
ces deux-là.
C'est le mot qui me venait à l'esprit, mm-hmm. ça, là, amitié, parce qu'au début, c'est sûr qu'on est peut-être un peu gêné, on ne sait pas comment appréhender la relation qui commence. Ça a un petit côté un peu forcé au début, hein, c'est un peu comme un blind date. Puis, mais à un moment donné, il va se créer ou il ne se créera pas autre chose. Là, mm-hmm. Ça va devenir une véritable amitié. Là, puis, ça va faire autant de bien
à l'un qu'à l'autre, exactement.
À chaque fois,
on
dit que c'est 2 à 3 heures par mois, mais au final, c'est comme avec nos amis dans notre cercle d'amis. On compte pas les heures quand on est avec quelqu'un que l'on apprécie.
Voilà, exact, tout à fait. Et dans ce sens-là, c'est je dirais, une expérience qui est aussi bonne pour l'un que pour l'autre. Les profils des gens que vous parrainez, des gens qui ont des problématiques tout azimuts. Est-ce que c'est plus pointu? Qu'est-ce qui se retrouve?
On est plutôt sur une DI légère, moyenne, et on n'est pas sur du multi-handicap. Mais donc, et puis, il faut que le filleul, comme on l'appelle chez nous, ait ce désir de socialiser.
Oui.
Que ce ne soit pas uniquement une volonté de sa famille ou de ses proches aidants ou du réseau.
Ouais, des intervenants qu'il pousse.
Ouais, c'est ça. Ça, il faut vraiment que ça vienne de lui,
ouais.
Et qu'il ait vraiment envie, cette ouverture, de vouloir socialiser.
Oui, parce que sinon, c'est plus une amitié qui va naître.
Mais après, évidemment qu'il y a des profils qui sont un peu plus timides.
Oui.
Mais grâce à la relation qu'on crée de personne à personne, il va s'ouvrir davantage.
Ouais.
Souvent, je prends l'exemple des cours, mais quand on est en grande classe, c'est un peu plus difficile de s'exprimer, tandis que quand on est personne à personne, de découvrir une personnalité, quelqu'un qui rayonne, c'est plus facile.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous servez de la musique avec votre filleule?
Oui,
certain.
Déjà, juste avec tous les parrainages, on fait de la musique. Là, on crée à chaque année, d'ailleurs, pour la journée P, on crée une vidéo ou une chanson en lien, dont il y a un des membres qui avait écrit un texte sur l'intimidation que j'ai trouvé magnifique. Et j'en ai mis une musique. On en a fait un vidéoclip. Lui, il a des ailes, il capote.
Ouais.
Il a son texte qui est devenu quelque chose de plus qu'un texte. Alors, c'est magique. Mais oui, tu sais, mon filleul, il aime beaucoup le cinéma. Donc, on va beaucoup au cinéma.
Voilà.
On fait des trucs plus de base, mais il est très autonome. Mais là, ça se peut même que je fasse un changement de filleul ou que j'en rajoute un. Et celui que j'ai en tête, il aime beaucoup voir des spectacles. Alors, c'est ça. Il y a toutes sortes. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est chaque parrainage civique organise des activités.
Oui.
Ils ont vraiment des calendriers d'activités. Donc,
propres.
Exactement. Donc, il y a des fioles en attente. Malheureusement, il y en a beaucoup.
Il y en a 870 à travers le Québec qui
870?
Qui sont en attente. Oui.
Alors, vous en avez 3200.
Non, en fait, on a 3200 personnes qui gravitent dans la famille du parrainage civil.
On est jumelés.
Et on a 1200 jumelages actifs.
OK.
Mais 870.
Mais vous pourriez en avoir beaucoup plus.
Ah oui.
Beaucoup plus, oui, évidemment.
Oui, exact. D'où l'importance de faire connaître qu'est-ce que le parrainage
exactement.
Civique. Parce que c'est simple. Mais en même temps, les gens, ce qui confondent ça avec grand frère, grande sœur, parce qu'il y avait un mouvement qui ressemblait à ça.
J'ai oublié de briefer votre recherchiste de ne pas en parler. Mais oui,
évidemment,
ils confondent. Non, je plaisante.
C'est la question du profane. Là.
Mais non, mais le jumelage est une technique qui se répand de plus en plus.
Oui.
Et donc, évidemment, on se fait souvent assimiler par ça. Mais donc, nous, notre clientèle, guillemets... est adulte. Pour certains organismes, ils prennent aussi des jeunes, ça va dépendre, mais avec des limitations.
C'est ça, et c'est
exactement.
Ça qui est le mot-clé ici.
C'est
parce
ça.
Que là, l'isolement est vraiment, je dirais, c'est lourd, exact, et c'est le lot de toutes les personnes qui ont de la difficulté à traverser la rue ou à naviguer sur Internet ou à rentrer en contact, mais les personnes qui vivent avec un handicap, c'est d'autant plus vrai. Alors là, vous allez reprendre la route.
Oui.
Là, il est midi 42. Vous êtes à Drummondville ce soir.
Oui, c'est pas trop loin.
Chez Louis.
C'est pas trop loin.
Chez Louis,
à 18h, Marco joue, mais on sera sur place pour installer le stock dès 14h30.
Alors ça, c'est au restaurant Chez Louis, 150 rue Saint-Georges à Drummond. Et vous êtes, en plus, espace communautaire Les Jumeleurs, 2590 Jarry Est, ici, à Montréal.
Juste tout près de la Tohu. Ah, ouais. Ce jeudi, oui. Deuxième.
Voilà, ben, ça
a déjà
c'est
même
bien.
Été un restaurant à l'époque, mais là, c'est les Jumelards, c'est vraiment. En plus, c'est à côté de chez moi. Fait que je suis bien content d'être capable de
partir sur mon chez Marco.
On finit la soirée chez Marco. Ça, voilà. Et samedi le 30, c'est les Rois de la Pomme sur la rue Saint-Jean-de-la-Lande à Saint-Georges-de-Beauce. Et puis après ça, ben, ça va continuer parce que la vie n'arrêtera pas le 30.
Exactement.
Ben, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci
à vous.
Je vous laisse filer parce que vous devez travailler encore. La journée est loin d'être finie.
Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Merci Locke, merci Marco.
Merci, mention à Mathieu, à la technique.
Ah oui?
Oui, on a travaillé ensemble, mais c'est toujours un plaisir.
Oui, il m'en a parlé
voir.
Avant l'émission, bon. Mais on, là encore, on n'ira pas là.
Uomo onesto, un uomo probo, tra la 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 la, tra la la lero, si innamorò perdutamente d'una che non amava niente. Gli disse portami domani, tra la 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 la, tra la la lero, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la 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 la, tra la la lero, dal petto il cuore le strappò, dal suo amore ritornò. Il cuore non era il cuore, tra la 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 la, tra la la lero, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Le disse amor, se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la lero, le disse amor, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, tra la la lero, e come sangue ne sbordò, correndo come un pazzo da lei tornò. Tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda e gioiva, un uomo si era ucciso per il suo amore. Soffiava dolce il vento, tra la 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 la, tra la la lero, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei niente era restato, non il suo amor, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.
Merci Marco Cagliari, si vous voulez l'entendre, mais c'est à Drummondville tout à l'heure, on peut presque dire ça. Nous allons maintenant, on tourne la page et nous allons parler de la langue des signes du Québec et dans une perspective assez spéciale en compagnie de Claire Moussel, directrice générale de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, ACEPA, et Thomas Vaillant qui est de la même association chargé de projet et vous lancez, et c'est comme... Tout juste, là, on parle du 23 septembre, on est le 25, c'est pas si mal. Hein? On vient de lancer un projet de Mon Dictionnaire LSQ. De quoi s'agit-il, Claire?
Alors, c'est le premier dictionnaire bilingue en langue des signes québécoise et français. Donc, il comporte à la fois des mots en français, les signes en langue des signes québécoise et les définitions à la fois en français écrit et en langue des signes.
Oh, donc des définitions, donc on peut comprendre. Absolument. Ah, donc c'est vraiment un dictionnaire, ce n'est pas un lexique où on ne fait que jumeler un mot avec le mot ou le signe correspondant et vice-versa. Donc on explique aussi. Donc ça a une intention didactique, Thomas.
Alors oui, une intention didactique, c'est certain qu'elle est là, mais l'intention, elle est surtout inclusive.
D'accord.
Aujourd'hui, notamment en termes d'éducation. Voilà, pour permettre aux enfants et aux personnes sourdes signeuses, et les autres d'ailleurs, d'avoir accès à une éducation dans leur propre langue.
Oui, tout à fait. Et ça, parce que ça manque. Il y avait un besoin, là. Si vous avez créé ça, c'est pas parce que c'était déjà... Vous n'avez pas fait comme quelqu'un d'autre, là. Vous parlez d'un besoin, de quelque chose qui n'existait pas à toute fin pratique.
Alors, le besoin était là et quelque part, il est toujours là.
Oui.
Voilà.
Parce que, évidemment, moi je me souviens, on en parlait avant de rentrer en onde, là, d'un cahier boudiné avec des photos, et ainsi de suite, qui était beaucoup plus un lexique qu'un dictionnaire. On parle de quelque chose de plusieurs années derrière. Mais là, maintenant, avec la technologie, est-ce que votre dictionnaire est en ligne? Est-ce qu'il a... et ce n'est pas que des dessins ou des photos?
Alors, effectivement, donc c'est un site Internet. Pour la première phase de développement, puisqu'on on a un nombre limité quand même de mots français, de signes, de définitions, c'est donc une première version.
D'accord.
Mais pour la suite, on pense développer effectivement une application mobile. Mais voilà, on ne va pas passer par des livres ou ce genre de choses, puisque c'est quand même compliqué de signer une définition
oui,
dans un livre.
C'est sûr, parce qu'une image... Avec une petite flèche, tout ça, ben c'est, ça ne fait jamais la même, je dirais, la fluidité qu'un mouvement.
Exactement.
Exact. Alors, le site Claire, c'est?
C'est lsq-fr.ca.
Oui, parce qu'on parle langue des signes, Québec, français.
Français.
Parce que c'est comme deux codes linguistiques qui se rejoignent au milieu, si on veut dire.
Exactement.
Et donc, le dictionnaire est appelé à grandir. Ce n'est pas un projet fini, ça commence.
Exactement, on est au tout début. Donc, la première phase a été financée par l'Office des personnes handicapées du Québec.
D'accord.
Ce qui nous a permis donc, de développer, d'imaginer la structure du dictionnaire, de produire le contenu donc avec les premiers mots en français, les premiers signes, les premières définitions. Mais évidemment, un dictionnaire aura besoin de beaucoup plus d'entrées.
Ouais.
Donc,
parce que
oui,
là, vous êtes à peu près à quoi? 600, quelque chose comme
là,
ça?
Là, on a 525 mots en français, ce qui correspond à 834 signes en LSQ et 701 définitions.
D'accord. Et donc, l'idée, c'est que ça grossisse. Maintenant que vous avez fabriqué... Vous avez la reliure du dictionnaire, si je peux dire. Ben là, maintenant, vous allez ajouter des pages.
Exactement. On a déjà une très bonne base, puisqu'on on a travaillé avant tout sur les listes orthographiques de première et deuxième année du primaire,
okay.
Ainsi que les premiers signes qui sont appris dans les cours de LSQ. Donc, on a déjà une très bonne base des mots les plus employés, etc. Mais bien sûr, l'idée, c'est de continuer, maintenant qu'on a une bonne idée du budget qu'il nous faut et qu'on a sécurisé des partenariats, justement, de rajouter plus de mots, plus de définitions, plus de signes, voilà, et notamment en faisant intervenir la communauté, puisque
oui.
Une chose qu'on a vraiment mis en avant dans ce site internet, c'est la possibilité pour la communauté sourde
de contribuer
en nous proposant des signes. Sur bien sûr des entrées qui sont déjà présentes, des signes qui sont soit
des variantes
géographiques ou générationnelles, puisque...
Une langue, c'est vivant.
Exactement.
La langue des signes est une langue vivante. Elle évolue. Mm-hmm. Il y a des différences régionales, il y a des différences nationales, hein, parce que ça... si vous avez déjà eu la conversation entre une personne qui fait une langue de signes québécoise ou américaine ou européenne en même temps, là, c'est pas tout à fait pareil. Là, il y a des sacrées différences.
C'est même complètement différent.
Et même au Québec, d'une région à l'autre, il va y avoir
des grosses variations. C'est comme les accents régionaux et les expressions locales. Tout à fait. C'est parce que ça prouve que c'est une langue, parce qu'une langue a justement cette capacité d'évoluer.
Et puis, il y a aussi un vocabulaire générationnel aussi en langue des signes, ce qu'il ne faut vraiment pas négliger. C'est que, voilà, on a ces deux grosses variantes-là.
LSQ ado.
Ados, oui, et puis personnes un peu plus âgées aussi,
c'est ça.
Dans des aires géographiques peut-être un peu plus isolées des fois.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc nous, on voulait certainement pas aussi, avec les personnes avec qui on a collaboré, on voulait certainement pas aussi créer un dictionnaire uniquement composé de signes qui s'utilisent à Montréal, par exemple.
Mais ça fait rigide, et puis c'est culturellement un peu...
C'est moins représentatif.
Ça n'aidera pas non plus la communauté dans toute sa diversité géographique et autres, d'âge et ainsi de suite. C'est pas la même chose. Parce que on parle de du lexique ou vous parliez tout à l'heure dans la langue des premiers, des niveaux de première, deuxième année, parce que les enfants sont une cible. Numéro un.
Alors exactement, les enfants, nous en tout cas à la KEPA, c'est vrai que les enfants sont quand même c'est un public cible avec les familles. Et puis surtout aujourd'hui, les enfants sourds, on leur enseigne le français à l'école, donc ils doivent apprendre quand même à écrire ces mots. Et jusqu'à présent, ils n'avaient que le français pour se fier pour comprendre en fait ce que voulaient dire ces mots.
Le sens.
Alors qu'aujourd'hui, justement, ce qu'on offre aux familles, ce qu'on veut offrir aux familles, c'est justement le fait de pouvoir accéder à un outil gratuit pour que les enfants, dans leur propre langue, leur langue naturelle et maternelle pour beaucoup, puissent avoir accès à ces définitions et en comprendre tout le sens.
Le sens des mots, parce que c'est une chose. Et surtout, quand on est tout petit, les mots, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça signifie? C'est bien plus important en termes d'inclusion sociale avec ses pairs et ainsi de suite. Ça doit avoir un impact sur le succès scolaire et toutes ces choses-là. C'est important d'avoir...
Absolument. Puis ça va aider les parents également, aussi. Parce que la majorité des parents d'enfants sourds sont eux-mêmes entendants.
Oui.
Donc, ils vont apprendre une langue autre que la leur en même temps que leur enfant.
Exact.
Leur enfant va progresser plus vite qu'eux, général.
Oui, tout à fait.
Donc, eux vont être outillés aussi pour... pouvoir accompagner leur enfant dans cette approche.
Et quand vous définissez un mot ou une expression, quand vous donnez la définition, le vocabulaire auquel vous avez accès pour définir ce mot-là se retrouve lui-même à l'intérieur des 500 ou 600 mots que vous avez. Est-ce qu'il n'y a pas une contrainte que, pour définir qu'est-ce qu'un arbre, par exemple, je dis ça comme ça, ou une automobile, comment vous allez devoir utiliser le même lexique qui existe déjà ou ça fait introduire de nouveaux mots?
Alors, on utilise
le même... Je suis peut-être pas clair dans mon explication.
Si, je pense que j'ai compris. On utilise le même vocabulaire, bien sûr, puisqu'on va retrouver des mots à l'intérieur. Mais on va plus loin que ça. Les personnes... donc, nous, on a travaillé ces définitions avec des personnes de la pédagogie.
Donc, des
professeurs sourds eux-mêmes et elles-mêmes qui enseignent à des élèves sourds et qui nous ont... fait les définitions.
Parfait.
Alors, elles sortent effectivement, elles utilisent plus de mots et plus de signes que ce qu'il y a dans le dictionnaire, mais de la même façon que finalement, quand on ouvre un dictionnaire, nous, un dictionnaire papier, le mot est là, mais on retrouve des mots qui sont capables d'expliquer de manière concrète.
Oui.
On ne va pas limiter les mots de l'explication. Après, c'est quand même des définitions quand même simples.
C'est destiné
avant tout aux enfants.
Oui, tout à fait.
Voilà, mais mettons qu'une personne entendante qui apprend la LSQ ne pourra pas nécessairement tout comprendre dans les définitions non plus, mais par apprentissage.
Exact.
Bien sûr. Voilà, c'est des définitions relativement simples quand même.
Les définitions apparaissent en français écrit. Donc, aussi. Mettons, quelqu'un d'entendant qui apprend la langue des signes pourra s'appuyer sur la définition en français pour essayer de comprendre la définition à l'ESQ. Et ça va l'aider aussi dans son apprentissage de la langue, pour la compréhension de la syntaxe aussi.
Parce que ce n'est pas un outil d'intégration LSQ vers le français, c'est l'inverse aussi qui est aussi important pour les familles, de voir, est-ce que quand vous parliez que les parents entendants puissent communiquer puis apprendre une nouvelle langue avec leur enfant, ben ça marche un peu dans les deux sens.
Alors oui, effectivement, on a travaillé cet outil pour que les deux populations, les deux communautés soient vraiment mises au même niveau. C'est-à-dire que on peut faire dans le dictionnaire, on peut faire des recherches à la fois par écrit dans des modules de recherche ou par des listes, mais surtout on peut travailler à partir de ce qu'on appelle les configurations manuelles, donc les positions des mains. Pour exprimer des signes. Bravo. Et donc les personnes sourdes peuvent aller chercher dans une banque d'images.
Parfait. Alors voilà. Merci beaucoup Thomas. Merci Claire.
Merci à vous.
Et on va aller sur le site lsq-fr.ca.
.ca. Et vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux aussi.
Tour avec François Beauregard.
Et avec Élisane Pellerin. Ah, c'est
bonjour!
Bonjour Élisane, c'est l'heure de la revue de presse et on va commencer par un sujet qui nous avait interpellé la semaine dernière.
Oui, on en avait parlé, donc on avait parlé des Jeux olympiques de Paris qui s'en viennent dans un an et puis on revient avec la manchette parce que la première ministre Elisabeth Borne a réuni le comité interministériel du handicap et 10 ministres parce qu'ils essaient de rendre, comme on le disait la semaine dernière, Paris beaucoup plus accessible pour les Jeux olympiques. Ils veulent utiliser donc cette chance-là pour être capable de redorer à la fois leur image et de redorer également leur accessibilité universelle dans la ville de Paris.
Parce que c'est sûr qu'à chaque fois que les Jeux olympiques ont lieu dans une ville, ça laisse des traces, on l'espère positive. Il y a des équipements, il y a des choses qui ont été mises en place pour les Jeux, mais qui après ça vont servir à la population bien au-delà de la cérémonie de clôture. Et en France, ils espèrent faire ça parce que leur dossier n'est pas tout à fait à la hauteur.
Il n'est pas tout à fait à la hauteur et on a 350 000 personnes en situation de handicap qui sont attendues donc dans moins d'un an maintenant. Il faut être capable évidemment de les accueillir et de leur offrir un service adéquat pour qu'ils puissent se rendre dans les lieux touristiques, dans les hôtels et un peu partout. Donc c'est sûr que il faut être à la fois à la hauteur donc pour cette semaine-là des Jeux olympiques, mais également, comme tu disais François, utiliser ce tremplin-là pour être capable de faire mieux en matière d'accessibilité universelle.
Parce que dans les... comme quoi, la France s'est fait un petit peu taper sur les doigts, là. La violation des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille par la France est établie, affirmait le Comité européen des droits sociaux. Donc, c'est quand même un organisme supranational. Organe émanant du Conseil de l'Europe. Donc, ça, c'est un rapport qui date d'avril dernier. Et un peu plus tôt, si on remonte en arrière, en septembre 2021, l'Organisation mondiale des Nations unies avait également rappelé à l'ordre la France dans un rapport d'une vingtaine de pages. Alors, la France a du rattrapage.
Effectivement. Les Jeux olympiques pourraient servir à accélérer le pas pour la France et avoir les subventions pour le faire. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'on veut. On veut tendre la main, on veut prendre ça comme étant un point positif pour avancer les choses.
Exact. Alors, on parle de 10 mesures concrètes et atteignables. On parle, entre autres, évidemment, de l'accueil, que ce soit les trains, les aéroports, les gares, ainsi de suite. Ça, c'est dans un premier temps. On espère ajouter un millier de taxis adaptés dans la grande région parisienne, d'avoir un système de dispositifs sonores et visuels dans le métro, une meilleure qualité des services d'assistance et un système de navettes dédiées. Alors, c'est ambitieux. On espère que tout ça fonctionne, hein, tombe en place.
On verra, on verra. À tout le moins, on y met un peu d'effort, donc c'est déjà un début.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a certainement une volonté politique en réaction un peu aux manchettes et aux interpellations dont on faisait écho la semaine dernière.
On parle de budget de 100 millions d'euros, donc on parle quand même de budget qui est conséquent, là.
Exact, tout à fait. C'est sérieux, ce dont on parle. Il y a des initiatives beaucoup plus petites, sportives, qui ont lieu aussi.
Donc, on a un raid à Thibaïde de 1000 km de l'association Dynamigo, donc à Grenoble, en France, qui a eu lieu donc, cette semaine, où on parle de rallier Nice en 15 jours à partir donc d'une soixantaine de skiistes qui vont prendre le départ pour faire un...
1000 kilomètres.
Mais 1000 kilomètres, donc, pour redorer l'image du handicap, ou à tout moins changer les visions par rapport au handicap et sensibiliser. Et ils vont faire ces 1000 kilomètres-là, donc, avec des enfants en situation de handicap qui vont se relayer aux côtés des cyclistes.
Et ils ont invité pour ça des athlètes connus du public, des cyclistes médaillés.
Entre autres, de Carole Montillet, qui est une ancienne championne olympique de ski, entre autres, qui a dit oui à l'invitation. Donc, les enfants étaient très fiers de parcourir ces kilomètres avec elle. Et elle sert un peu de porte-parole pour faire connaître la cause et, comme je le disais, pour changer la vision sur les personnes en situation d'handicap.
Oui, exactement, les perspectives. Alors, ils vont partir. Ils sont déjà partis de Grenoble, il y a de ça un peu plus d'une semaine, et ils arrivent le 30 septembre, c'est-à-dire vendredi. Si je ne me trompe, ils arrivent samedi 30 septembre et ils vont arriver à Nice. Bravo! Dans le nord de la France, on ne parle pas de vélo, on parle de marionnettes.
On parle effectivement de marionnettes parce que on a donc des spectacles au niveau de marionnettes qui vont aider des étudiants en situation particularités neurologiques, des personnes qui ont aussi des handicaps au niveau psychologique. Donc, ces enfants-là, on parle des élèves de l'Institut médico-éducatif de la ville de Ancèves pour venir assister à des spectacles de marionnettes au Festival des marionnettes de Charleville et Mézières. Et c'est un rendez-vous, donc, pour la 22e édition. Il est 7 élèves étaient accompagnés, donc, des éducateurs spécialisés pour aller voir ce spectacle-là. Et on parle du fait que ce spectacle, donc, va aider ces enfants-là à mieux communiquer, vont aussi aider au niveau de leur apprentissage social.
Oui, et Charleville-Mézières, pour vous situer, c'est dans le nord de la France, c'est pas tellement loin de la frontière belge. À moins que je ne confonde avec Charleroi, quoi qu'il en soit, mais il y a effectivement un festival de marionnettes chaque année. C'est la 22e édition dont il parle. C'est quand même je dirais une activité culturelle phare dans la région de la Marne. Alors et c'est bien qu'ils aient ouvert ça et qu'ils permettent je dirais une inclusion. Et ça, c'est un pas en avant. Parlant d'inclusion, on va parler de handitourisme.
Oui, on parle donc de la baie de Rizet et de son comptoir de tourisme cœur de Saint-Auge, pardon, qui viennent d'être labellisés tourisme et handicap pour les quatre handicaps, donc handicap auditif, handicap psychologique, handicap moteur et handicap visuel. Ça devient donc le premier cycle de visite de CDC Cœur Saint-Auge à être labellisé de cette façon-là. Donc, qui devient, entre guillemets, 100% accessible aux personnes en situation de handicap.
Le handi-tourisme en France, c'est quand même quelque chose qui est important. On avait ici, Élisane, au printemps dernier, je le rappelle à nos auditeurs, le plaisir d'avoir l'éditeur du guide ou de la série Le Petit Futé, qui est un guide touristique. Et le Petit Futé avait lancé un guide spécialisé en sites accessibles en France. C'était vraiment le site, le guide de la collection Le Petit Futé, le guide qui était le guide pour le tourisme adapté et accessible en France. Alors, le label ou la désignation tourisme et handicap en France, là, c'est quelque chose qui est important et qui a été, qui fait même donc l'objet d'un guide touristique. Alors, si jamais des auditeurs, auditrices, vous allez en France ou vous souhaitez y aller, dites-vous que le tourisme accessible en France, c'est une réalité. Ça fait un peu contrepoids. Tout à l'heure, on parlait que les Jeux de Paris nous indiquaient qu'il y avait des problèmes d'accessibilité peut-être dans des grands milieux urbains, mais...
Ah, tout le monde avance.
Ah, voilà, on s'en va.
On en parle.
Exactement, on s'en va du bon côté. On va se quitter là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-ci de l'Atlantique.
Oui, on va avoir quelques nouvelles au niveau local.
Merci, M. Tessier. Rick Wakeman, les six femmes d'Henri VIII, c'était Catherine d'Aragon. On parle d'un claviériste de rock progressif des années 70 qui se produit encore aujourd'hui. M.
M. Wakeman avait une formation classique, hein, ça s'apparaît dans son doigté. Cela dit, on revient dans les choses plus prosaïques, Élisane. Il y a des élections au Manitoba.
Il y a des élections provinciales au Manitoba, effectivement. Et pour aller avec ça, on a un débat politique qui a été organisé par Disability Matters Vote pour parier justement des enjeux du handicap pour Manitoba et que ça ne soit pas écarté des programmes.
Parce que les élections, c'est bientôt, c'est le 3 octobre.
C'est le 3 octobre, effectivement.
C'est la semaine prochaine. Et Disability Matters, bien là, évidemment, on reprend évidemment le si je peux dire, l'expression de Black Lives Matters, mais un n'enlève rien à l'autre. Donc, le débat a eu lieu, puis est-ce qu'il y a des partis qui semblent s'être démarqués?
Il y a des partis qui semblent se démarquer, entre autres le NPD, qui a un parti provincial là-bas, au Manitoba, qui semble avoir bien
saisi
les points, approfondi les points, devrais-je dire. Donc, ils ont effectivement bien approfondi les points. On parle également du Parti libéral qui s'en serait effectivement aussi bien sorti en approfondissant bien le débat et en étant très intelligent dans ses réponses.
Parce que c'est, ça arrive souvent en politique qu'on a eu le même exemple ici au moment des élections l'année dernière au Québec. Il y a certains partis qui épousent certaines causes mieux et davantage et avec plus de sincérité que d'autres.
Oui, bien, hein? C'est une question de programme. Hein?
Oui, voilà.
Chacun ses priorités.
Oui, quand on dit programme, on dit priorité. Voilà. En parlant de tout ça, on se retrouve avec aussi à l'agenda, en fin de semaine, je pense, à Québec.
Oui, donc il y a 30 septembre, Moi, Lépinière et Motricité Québec organisent la troisième édition de son salon Innovation et Technologie, donc à l'Institut de réadaptation en efficience physique de Québec. C'est un salon, donc, comme le nom le dit, qui va se porter sur les innovations technologiques pour aider les personnes qui sont en situation de handicap de façon large. Donc, comment les technologies peuvent aider les personnes qui ont des...
problèmes de motricité?
Oui, problème de motricité, problème visuel, problème auditif. Okay. Comme je le disais, c'est quand même très large. Hein.
Alors ça, c'est donc parce qu'on pourrait penser que moi, Lépinière et Motricité Québec, évidemment, mais le mémo vont couvrir à prime abord les sujets qui leur sont plus à cœur. Mais donc, ça va être un salon qui va être plus large que ça. Donc, il y a plus d'intérêt pour des personnes qui vivent avec différents types d'handicap. Ça, c'est au 525 boulevard Wilfrid Hamel à Québec. Hein? C'est le 30 septembre, si je ne me trompe,
oui,
c'est samedi.
Oui, c'est le 30 septembre, effectivement, et toute la population est invitée, bien que, effectivement, ce soit pour les personnes qui ont des limitations physiques en particulier, mais tout le monde peut aller découvrir les nouvelles innovations qui vont, pour certaines d'entre elles, là, changer les choses, même pour les personnes qui sont sans problème de mobilité quelconque, parce qu'on avance au niveau des technologies. Et donc, c'est intéressant à voir, là, même pour les gens qui n'ont pas de problème de motricité.
Je dirais qu'ils n'en ont pas encore, parce qu'avec l'âge, voilà. ça tente à se développer. Les escaliers ne sont pas tous les matins aussi faciles à négocier quand on avance en âge, puis ça nous amène à parfois à devoir restreindre nos activités, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, c'est de 10h30 à 16h30. Ça va avoir lieu à l'IRPDQ. L'IRPDQ, c'est le gros centre à Québec en termes de réhabilitation. Les premières éditions du salon en 2017 et 2019 avaient été vraiment un succès. Là, évidemment, ben, entre 2019 et aujourd'hui, il s'est passé ce qu'on sait. Là, on revient donc avec cette nouvelle mouture. Alors ça, c'est un rendez-vous samedi à Québec. On parle de jeux vidéo.
On parle de jeux vidéo parce qu'on a mis en pièce un guide pour favoriser l'inclusion et la diversité dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a le guide du jeu vidéo du Québec. C'est uni avec le studio québécois Binox et plusieurs organisations sociales pour lancer un guide des bonnes pratiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. On parle d'une série de recommandations visant à faciliter la diversification et le bon fonctionnement de l'industrie parce que l'industrie est largement composé de personnes blanches, masculines et cisgenres. Alors, on essayait de mieux diversifier les personnes au sein de cette industrie-là.
Oui, parce qu'évidemment, on peut penser que s'il manque de diversité à l'intérieur de l'industrie productrice de jeux vidéo, bien souvent, ça va aussi se refléter dans le produit. Puis il peut y avoir, même de bonne foi, là, il peut y avoir
un manque de représentation.
Un manque de représentation, où il peut aussi avoir, on peut colporter peut-être des mythes ou des choses qui ne sont pas tout à fait justes, que ce soit même de bonne foi, et dans ce sens-là. Et le jeu vidéo, c'est énorme. Jeu vidéo, c'est plus gros que le cinéma et la télé réunis.
C'est énorme, et au Québec, on en fait beaucoup. On est des personnes qui sont très fortes avec ça. On a des gros studios ici au Québec.
Oui.
Et donc, ça s'inscrit dans un cadre d'action de la Guild qui a été lancé en 2021 parce que on avait une charte d'engagement pour prendre des initiatives, pour démystifier certains concepts et pour essayer donc de diversifier les équipes et d'inclure plus de diversité donc dans les équipes en entreprise, au sein des grandes entreprises, mais au sein des petites entreprises. Et donc ça a été, c'est un des débuts de la guilde, donc d'aider même les petites entreprises à avoir des références pour oui. être plus aptes à une meilleure diversité à l'intérieur des équipes et à bien accueillir cette diversité-là.
Parce que souvent, on est de bonne foi, puis on veut faire, bon, mais par où on commence, puis comment organiser ça à l'interne, même si on a la volonté, ben c'est bon d'avoir un guide sur comment ça se fait. De la bonne manière. Au lac Saint-Jean, on a une bonne nouvelle en termes de logement.
Au lac Saint-Jean, effectivement, on a une maison des aînés et alternative qui va être construite. Donc, on parle de 96... qui a été construite, pardon, et on parle de 96 résidents du CHSLD de Robertval qui vont occuper les lieux. On parle des adultes qui vivent avec des problèmes de mobilité, donc des personnes vieillissantes. On parle aussi des personnes qui sont moins vieillissantes, mais en situation de handicap, qui vont pouvoir occuper les lieux. On parle également d'une maison donc qui va être plus conviviale qu'un chez
CHSLD. Oui, c'est ça, parce que c'est comme des milieux de vie. Là. On essaie de ne pas reproduire un milieu institutionnel.
Trop médical, voilà.
Oui, voilà, tout à fait, parce que la médicalisation des situations de handicap, ça, c'est... on essaie de s'en sortir. Ça, c'est à Robertval.
Oui.
Il va y avoir, je pense aussi, à Chicoutimi-Nord, il va y avoir une autre maison des aînés qui va ouvrir ses portes bientôt.
Le 11 octobre, si tout va bien.
Et à Alma, le 1er novembre.
Et à Alma, le 1er novembre. Donc, on voit vraiment une volonté d'ouvrir des maisons qui sont peut-être plus adaptées aux besoins, à la fois, je le disais, des personnes aînées, mais aussi des personnes en situation de handicap et qui vont accueillir aussi les personnes aidantes, donc les aidants naturels, et leur donner un rôle pour ceux qui le veulent bien, donc qui vont oui. pouvoir accompagner leurs proches dans un milieu de vie qui va être beaucoup plus, comme je le disais tout à l'heure, plus chaleureux et plus accueillant et moins médical, tout en offrant les services dont ces personnes-là oui. ont besoin pour qu'ils vivent confortablement.
Oui, c'est toujours le jeu d'équilibre
oui.
entre le service, la fonction et en même temps la forme, ce qu'on veut accomplir, mais de quelle manière est-ce qu'on peut le faire. Parlant de logement, toujours, genre de logement abordable, de l'autre côté, du côté sud.
À Rivière-du-Loup, oui, on a 68 logements abordables qui devraient être construits si tout va bien. Donc, on parle d'une entreprise de Rivière-du-Loup qui, C4 Immobilier, qui va déposer à la Société d'habitation du Québec, donc SHQ, une demande pour être capable de construire ces logements-là, qui sont 78 logements abordables pour répondre à la crise du logement dans la région.
Ben oui. Je voyais le chiffre, là, 0,5% d'inoccupation, mais ça, c'est 0,5, c'est comme zéro. Hein?
Oui,
ça veut dire que de se trouver un logement à Rivière-du-Loup, c'est proprement impossible. Là. C'est comme un logement sur 200
qui serait disponible.
Et probablement que l'eau coule.
Oui, que l'eau coule, oui, tout à fait. Ou bien il est en réno. Et certainement qu'il est très cher.
Oui, il est sûrement très cher.
Oui, parce que c'est l'offre et la demande, là, c'est ça que ça crée. On va prendre le temps, parce que dans les dernières semaines, on avait beaucoup de choses à l'actualité, mais prenons le temps de parler, parlons culture. J'ai eu sur mon pupitre, juste avant de rentrer en onde, une petite communication qui vient de la Fondation des aveugles du Québec. Comme vous le savez, dans le milieu du handicap visuel, la Fondation des aveugles du Québec, depuis des années, organise des spectacles qui s'appellent Humour aveugle, où on voit souvent des stand-up de renom et d'autres de la relève venir roder des spectacles. Et souvent, c'est l'endroit où on écoute la blague pour la première fois. Et ça permet aussi le financement des activités de récréatives de la Fondation des aveugles du Québec. Et on me dit que le spectacle qui est prévu ce vendredi, le 29 septembre, donc dans quelques jours, à 19h au Théâtre Saint-Denis, eh bien, il reste encore quelques billets. Et si vous voulez vous en procurer, communiquez avec Alexandre Saint-Arnaud, qui est à la Fondation des aveugles du Québec. On peut rejoindre Alexandre Saint-Arnaud au 514-259-9470, le poste 229, ou tout simplement envoyer un courriel Alexandre à aveugle avec un s.org. Ça, c'est pour rire un peu. Hein? Voilà. Le RAM, Élisane, ça, c'est tout un programme.
Il y a Cadre culturel du RAM qui est sorti. Donc, on parle, entre autres, d'une exposition de sculptures sonores et aussi, donc, des échanges de bailliage de Montréal.
Ah, mais juste revenir, les sculptures sonores, moi, ça pique ma curiosité, là. Faut aller faire un tour de ce côté-là. Ça, c'est une exposition qui va se promener d'une maison de culture à l'autre, si on peut dire. Elle est, je pense, près de métro Frontenac.
Oui, elle est à la Maison de la culture Jeannine Souteau, donc jusqu'au 1er novembre. Et par la suite, ça en va à la Maison Culture Quai à Verdun. Du 3 février au 31 mars et par la suite, donc, à Saint-Laurent, à la Bibliothèque du Boisé, du 30 septembre au 6 octobre 2024.
L'année prochaine. La Bibliothèque du Boisé à Saint-Laurent, est-ce que vous avez déjà eu la chance d'y aller, Lisa?
Non, je ne suis jamais allée.
C'est un chef-d'œuvre d'accessibilité universelle.
Oh, c'est rare, ça!
Oui, si je ne me trompe pas, j'en suis sûr à 98%.
J'irai voir, on
oui, c'est cité comme un exemple d'accessibilité universelle. Alors, pas besoin d'attendre nécessairement d'aller voir l'exposition Éon de sculptures sonores l'année prochaine, mais si vous avez besoin de aller voir une bibliothèque, vous êtes dans le coin, la bibliothèque de Ville-Saint-Laurent est incroyablement aérée, lumineuse et facile d'accès, c'est très bien. Mais il y a d'autres spectacles, donc, pour revenir à notre propos. Il y a quelque chose le 28 septembre.
Échange et bailliage de Montréal, présenté par Densité avec audio description. Donc, effectivement, il y a 28 septembre de 18h30 à 22h30. On parle des chorégraphes Ossia John, Christelle Pitt et Azure Burton qui vont signer un programme intitulé Essence.
Et ça, c'est au Théâtre Maisonneuve.
Oui.
Place des Arts.
Alors, Place des Arts, effectivement.
Tout à fait, sur la rue Sainte-Catherine. On dit la rue Sainte-Catherine-Ouest, mais tout le monde sait c'est où la Place des Arts. C'est par le métro Place des Arts. C'est drôle, ça, on n'associe pas la Place des Arts avec une adresse sur une rue, mais oui, ce qui est important, c'est que Enora Rivière va assurer une audio description en français. C'est gratuit pour les accompagnateurs parce que Densité est membre de la carte Accès loisirs. Alors ça, c'est ce jeudi 28 septembre à 18h30 dans le spectacle de ballet. Et ça, c'est quand même Ballet Jazz de Montréal. On parle d'un spectacle...
De haut niveau quand même.
De haut niveau, oui, tout voilà. À fait. En octobre, il y aura également une représentation au Rideau Vert, hein, aussi avec Théâtre aux descriptions. Ça va être le 20 octobre prochain. Mais ça a l'air loin, mais ça va venir bientôt.
Ça vient vite.
Voilà. Alors, on va garder le calendrier culturel du RAM à chaque semaine ou à chaque mois pour vous tenir au courant de ce qui s'en vient bientôt. Élisane Pellerin, merci.
Merci beaucoup.
J'aimerais souhaiter également mes meilleurs voeux de vacances à François Beauregard qui s'en va.
Bonne vacances, François Beauregard.
Merci beaucoup. Alors, je m'en vais en vacances, mais on va revenir dans quelques semaines. N'ayez crainte. Voilà. Mathieu Tessier à la régie. Claire Guérin à la recherche. Tout le monde, on a travaillé très fort puis on a fait une belle émission et je vous en remercie de votre écoute. On se reparle dans quelques semaines.
Après